Après avoir découvert l'actualité de la semaine avec le regard de Philippe Meilleur, on va maintenant retrouver la directrice des programmes chez Vélo Québec, Magali Bebron. Bonjour Magali.
Bonjour David.
Bien, qu'on soit en hiver ou en été, la question de la sécurité routière est toujours très importante. Puis aujourd'hui, bien, tu voulais aborder la question justement parce qu'il se passe des choses un petit peu partout. Puis tu voulais mettre un peu de lumière sur la question.
Exactement. Ce matin, en fait, c'était jour de manifestation devant plus de 25 écoles québécoises. À Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Drummondville, Magog, et j'en oublie sûrement, les parents de plusieurs écoles s'étaient donné comme mot d'ordre de, c'est leur mot, mettre fin à l'insécurité routière aux abords de leurs écoles de quartier, des écoles primaires pour la plupart. Les organisateurs et organisatrices de cette grande mobilisation veulent sonner ce qu'ils appellent la fin de la récréation. Il faut dire que ces parents-là, qui accompagnent quotidiennement leurs enfants vers l'école, sont très bien placés pour savoir qu'il y a beaucoup trop de comportements dangereux dans les zones scolaires.
Et ça, ils sont conscients, ils les voient.
Mais oui, on les voit au quotidien quand on est proche d'une école. N'importe quelle directrice d'école vous le dirait. Donc, avec l'électrochoc qui a constitué un petit peu la mort de la petite Maria en décembre dernier, ça a fait réaliser, je pense, à beaucoup de gens que leurs enfants ne sont pas à l'abri, eux aussi, d'un accident grave. Donc, à 7h45 ce matin, ils étaient des dizaines, probablement en fait des centaines, à travers la province pour interpeller leurs élus de tous les niveaux. Donc aujourd'hui, je voudrais prendre un petit peu de temps avec vous pour passer en revue ce que peuvent demander ces parents et ces citoyens qui se mobilisent. Parce que bon, les collisions, les victimes de la route, les morts, les blessés, c'est pas une composante normale et inévitable de nos systèmes de mobilité. Je vais le répéter souvent, mais c'est pas une fatalité. Encore faut-il avoir la volonté de s'attaquer au problème et surtout peut-être même de revoir nos priorités. Je dirais même parfois notre système de valeurs.
C'est ça, puis il faut pas qu'on en arrive non plus à banaliser les incidents, le grave et majeur.
Tout à fait, parce que tu sais, quand on parle du nombre de victimes, on se demande c'est quoi le nombre de victimes acceptable sur la route, mais quand tu te demandes si ça pourrait être ton enfant ou ta mère, ton frère, ta sœur, ben c'est zéro. C'est pas mal ça. C'est pour ça qu'on parle de vision zéro, zéro mort et blessé grave. Donc, si on commence par les revendications qui sont faites au niveau provincial, les organisateurs de la manifestation ce matin reprenaient une demande qui a été formulée tout début janvier par une dizaine d'organismes qui appelaient le gouvernement Legault à mettre en place une stratégie gouvernementale de sécurité routière. C'est Piétons Québec qui était à l'initiative de cette sortie, mais elle était appuyée par Vélo Québec, la FADOC, la Fédération de l'âge d'or du Québec. On sait à quel point les aînés constituent une part toujours plus grande des victimes de la route. La Fédération des comités de parents, l'Ordre des urbanistes, le Centre d'écologie urbaine et bien d'autres. Puis de façon peut-être encore plus remarquable, la demande, elle était également appuyée par CAA Québec. Ça vaut la peine de le mentionner parce que ces jours-ci, on parle beaucoup des usagers dits vulnérables, les piétons et les cyclistes, mais au cours des 5 dernières années, ce sont plus de 1700 personnes qui ont trouvé la mort sur nos routes, dont beaucoup d'automobilistes. Donc, la sécurité routière, c'est l'affaire de tous, à moins de vivre complètement reclus chez soi et de jamais se déplacer.
Puis, justement, selon toi, qu'est-ce que ça changerait d'avoir une stratégie de sécurité routière? Qu'est-ce que ça peut amener?
Bien, on se concerterait et ça nous permettrait de nous attaquer aux racines profondes de l'insécurité routière et d'aller au-delà du discours actuel qui est complètement basé sur les comportements individuels des usagers de la route. Au Québec, on est les champions pour dire que l'insécurité routière, c'est un problème de comportement. Alors, on met beaucoup d'efforts à faire des campagnes et à se désoler que les usagers de la route continuent à avoir des comportements à risque. Mais ailleurs, notamment en Suède, en Scandinavie, on a compris que des comportements problématiques, il y en aura toujours. Des comportements niaiseux, de la fatigue, de la distraction, de la délinquance, ça ne va pas disparaître demain matin. L'erreur, elle est humaine et on doit donc travailler de façon plus systémique. Je sais que c'est un peu rendu un gros mot, là, le mot systémique, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va agir sur les systèmes pour faire en sorte que les systèmes pardonnent, entre guillemets, les humains qui font des erreurs, sans que ça aboutisse à des décès ou des blessures graves.
Puis concrètement, qu'est-ce que tu entends par agir sur les systèmes? Qu'est-ce que ça veut dire?
Bien, en sécurité routière, on va parler de deux systèmes principaux, les véhicules et le réseau routier. Je ne m'attarderai pas trop sur les véhicules aujourd'hui, mais on va surtout parler des routes parce que c'est beaucoup ça qui est au cœur des demandes des parents qui manifestaient ce matin. Donc, l'aménagement des rues, ça relève autant du gouvernement provincial que des autorités municipales. Au niveau provincial, il faut savoir que c'est le MTQ, le ministère des Transports, qui énonce les normes de conception de notre réseau routier, qui deviennent un peu la bible des ingénieurs. Donc, elles précisent les largeurs minimales des voies, les rayons de braquage, les pentes maximum des bateaux pavés, la couleur des marquages, les panneaux de signalisation, bref, tout ce qui constitue notre système
c'est
routier.
C'est le livre de référence, un petit peu le point de référence central.
Voilà, en plusieurs tomes. Mais quand on réfléchit deux secondes à quelles sont les portions de notre réseau routier qui sont directement sous la responsabilité du MTQ, ben, ça fait un petit peu sourcier parce que ce sont essentiellement les autoroutes, les routes numérotées et en milieu urbain, certaines grosses artères. Donc, quand on prend la rue Sherbrooke à Montréal, par exemple, c'est une route numérotée, la 138, qui est sous la responsabilité du MTQ. Donc, si l'expertise du MTQ, c'est les grosses routes, les artères principales, est-ce que leurs normes sont vraiment bien adaptées aux besoins de déplacements locaux et actifs, par exemple à pied ou à vélo? Ben, la réponse, malheureusement, c'est non. La priorité du MTQ, beaucoup d'intervenants vous le diront, c'est la fluidité des déplacements motorisés et il ne faut surtout pas entraver cette fluidité. En septembre dernier, une dizaine de maires de villes de petite et moyenne taille signaient une lettre ouverte demandant au MTQ d'arriver au 21e siècle et de revoir ses pratiques pour que les routes numérotées qui traversent leur cœur de village et de ville arrêtent d'être des barrières complètement infranchissables qui favorisent la vitesse de la circulation et ne font aucune place aux déplacements actifs. Parce que, bon, non seulement les normes du MTQ ne sont pas au goût du jour, mais en plus, le ministère est rarement aidant quand des municipalités veulent réaménager leur rue principale, qui est aussi une route numérotée. D'une part, quand le MTQ refait une route, ben, tout ce qui est infrastructure pour les modes actifs, donc trottoirs, pistes cyclables, etc., ça reste à la charge financière de la municipalité.
Okay.
Mais en plus, si la municipalité veut ajouter des mesures de modération de la circulation pour ralentir la vitesse des véhicules, aménager des traverses piétonnes, etc., elle va souvent se heurter au veto du MTQ.
Fait que pour résumer, là, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de rues qui ne sont pas sous la gouverne du ministère des Transports.
Dans les plus petits milieux, ça va beaucoup être des rues du MTQ, mais c'est certain qu'en milieu urbain, Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke, encore une fois, la plupart des collectrices et des rues locales sont sous la responsabilité de la ville ou, dans le cas de Montréal, des arrondissements. Alors, on peut voir une certaine disparité dans les efforts que mettent les différents arrondissements dans les mesures d'apaisement de la circulation. La carte que la ville de Montréal met à disposition montre, par exemple, comment des arrondissements comme Rosemont, Outremont ou Côte-des-Neiges-Indigie sont tapissés de dos d'âne, alors qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus rares dans Ville-Marie. Ou comment Côte-des-Neiges n'a à peu près pas de voies cyclables physiquement séparées de la circulation. On voit aussi, par exemple, que Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a changé le sens de circulation de beaucoup de rues. Et tout ça, ce sont des exemples de mesures que réclament les parents qui ont manifesté ce matin. Donc, des dos d'âne pour ralentir la vitesse des véhicules, ça marche sur les rues locales ou résidentielles, mais on le sait, on n'en installe pas ça, des dos d'âne sur les artères. Les changements de sens de rue, ça aussi, c'est très utile quand on veut s'assurer que les rues locales restent réservées à la circulation locale. Donc, pour éviter que ces rues servent à des automobilistes en transit qui veulent juste traverser rapidement un quartier, les sens uniques qui vont rabattre la circulation vers les artères tous les quelques coins de rue sont vraiment efficaces. En Espagne, la ville de Barcelone en a fait sa spécialité avec ce qu'on appelle des superblocs, c'est-à-dire des groupes de quelques pâtés de maisons qui ne peuvent pas être traversés.
Okay.
De manière générale, à partir du moment où une rue est réservée aux véhicules dont c'est la destination, ça devient pas mal plus tranquille. Et c'est pas pour rien que tous nos quartiers de banlieue sont aménagés en croissant et en cul-de-sac. Dans les banlieues, on n'aime pas ça, la circulation de transit.
Ça fait que c'est un moyen justement d'apaiser la circulation.
Complètement. Hein. Quand on veut apaiser la circulation, on la ralentit puis on réduit le volume.
Puis l'intérêt des gens d'y aller aussi.
Exactement. L'autre mesure d'apaisement de la circulation qui est de plus en plus demandée, c'est les saillies de trottoirs ou extensions de trottoirs. Elles ont plusieurs avantages. D'abord, elles assurent aux différents usagers de la route une bonne visibilité en rendant impossible le stationnement dans les 5 mètres aux abords d'une intersection, qui est interdit anyway. Donc, le conducteur, il peut beaucoup mieux voir un piéton qui s'apprête à traverser, par exemple. Deuxièmement, elles réduisent la distance que le piéton a à franchir pour traverser la rue. Donc, le piéton est exposé au risque pas mal moins longtemps. Quand on pense aux personnes âgées qui marchent tout doucement ou aux enfants avec leurs petites jambes, c'est particulièrement appréciable. Troisièmement, les saillies, elles ont pour effet de revoir le rayon de braquage de l'intersection. Donc, en fait, elles vont obliger l'automobiliste qui tourne à ralentir pas mal plus en prévision de sa manœuvre. Enfin, ces saillies, elles peuvent être végétalisées, ce qui embellit les coins de rue, lutte contre les îlots de chaleur, etc. Donc, c'est vraiment que du bénéfice, sauf que c'est cher. On parle de plusieurs centaines de milliers de dollars chacune. Puis, parmi les autres mesures qui pourraient vraiment améliorer la sécurité des zones scolaires, je vais aussi citer les trottoirs traversants, comme on en voit sur Bernard dans le Mile End, où je voudrais vous parler également d'une initiative qui voit le jour à Paris. Ce sont les rues aux écoles. Il y en a 168 qui sont aménagées et essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on bloque complètement la circulation sur ces rues-là avec des barrières amovibles. Il y en a un certain nombre qu'on va complètement réaménager. On va revoir le pavé au sol. On va également planter des arbres, etc. Donc, toute la zone scolaire est complètement apaisée et sécurisée. À Montréal, on commence tout juste à faire des projets pilotes. C'est le Centre d'écologie urbaine avec son projet de rue école qui essaye ça à quelques reprises au cours de l'année. Okay. Mais disons que c'est le genre de mesure qui mériterait vraiment d'être généralisée et pérennisée. Donc voilà pour une liste de toutes les petites idées de ce qu'on peut faire. Je vous le disais, ce n'est pas une fatalité. Donc on se retrousse les manches et on sécurise nos zones scolaires.
Puis on pense justement à certains moyens qui peuvent nous permettre de créer des zones là, vraiment comme à Paris. Là, je pense que c'est une situation qui est super intéressante, mais il faut y réfléchir.
Exactement.
Magali Bebron, merci beaucoup.
Bonne journée.
À toi aussi.